un podcast Studio Dilettante.
Les chroniques de l'inframonde.
On a décidé de monter une maison d'édition indépendante.
Et on vous explique comment faire.
On publie des ouvrages qui nourrissent les réflexions et les savoirs autour de l'imaginaire.
Donc science-fiction, fantasy et fantastique.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce sixième épisode des Chroniques de l'Inframonde. Je suis Corentin, et je suis accompagné de Fanny. Bonjour Fanny.
Bonjour.
Pour l'épisode d'aujourd'hui, avant de partir en vacances, on a décidé d'aborder avec vous un sujet qui est, ma foi, très dense, le sujet des contrats d'auteur. Je vais commencer par le même warning que d'habitude. Bien sûr, on n'est pas juriste, et on cherche simplement à rendre compréhensible un sujet qui est complexe et qu'on a donc simplifié. C'est un sujet qui résonne pas mal d'ailleurs avec l'actualité du milieu. On est aujourd'hui dans un contexte où les relations entre auteuristes et éditeuristes sont questionnées, où les rapports de force entre ces deux acteurs et actrices, et plus généralement au sein du milieu du livre, sont beaucoup remis en cause. Et le contrat d'auteur, bah, c'est un des éléments constituants de ces relations. Au point de départ d'un tel contrat, il y a donc un ou une auteur ou autrice qui souhaite faire éditer son texte et qui a trouvé un ou une éditeur, éditrice intéressée. Une fois les premières discussions posées, le contrat, c'est le document officiel qui va venir valider cet accord entre la maison d'édition et l'auteur, autrice. C'est donc un document juridique aux nombreuses composantes qui permet de définir clairement le rôle des deux parties dans la production du livre.
Donc la première chose qui est indiquée dans ce contrat, ça va paraître évident, hein, c'est que l'auteur, l'autrice s'engage à fournir un texte. Si le texte n'est pas déjà écrit, ça peut impliquer des délais. Et sinon, il peut y avoir tout un tas de détails comme le nombre de signes, le sujet précis, voilà, etc. Ça va dépendre du projet défini suite aux discussions entre la maison d'édition et l'autrice. De son côté, la maison d'édition a aussi des engagements. Elle doit assurer l'impression, la diffusion de l'ouvrage, hein, sa présence en point de vente, hein, ainsi que la promotion de l'ouvrage. L'étendue de l'engagement est définie par le contrat et aussi par la taille de la maison d'édition. Une petite maison qui s'autodiffuse, hein, qui a une présence à l'échelle régionale, ne pourra pas s'engager aux mêmes éléments qu'une maison d'édition plus importante qui est diffusée à l'échelle nationale, par exemple. Ces éléments vont être écrits dans le contrat sous forme de clauses et on va les faire aussi détaillés que nécessaire, notamment sur quelle est la conséquence si telle clause n'est pas respectée par un tel. Le but est de protéger les deux parties, notamment si l'auteur constate par exemple que l'éditeur ne fait pas un bon travail de promotion de son ouvrage, il pourrait tenter de faire annuler le contrat par exemple. Ça, c'est la théorie légale, parce que bien souvent les relations auteur-éditeur, autrice-éditrice, ne sont pas si équilibrées que ça. Et le recours pour dénoncer un contrat n'est pas toujours simple. Moi, j'ai un exemple là, d'un auteur de guide de voyage qui s'est retrouvé avec un livre qui n'a pas été distribué, diffusé du tout. En fait, les seules librairies qui ont pris son livre sont celles que lui, il a été démarché. Et il n'a jamais su combien de livres avaient été vendus au final. Donc, il n'a pas été payé de ses droits d'auteur et du jour au lendemain, l'éditeur a disparu sans donner de nouvelles. Voilà, c'était. J'avais rien calé dans cette histoire. Et quand je lui ai posé la question s'il avait pensé à dénoncer le contrat, parce que clairement, ça rentrait pas dans les clauses de ce que devait faire l'éditeur, sa réaction, ça a été non, c'était trop en fait. C'est que l'engagement juridique de dénoncer un contrat, c'est une procédure qui est assez lourde à porter. Et donc, c'est pas si évident pour les deux parties de pouvoir dénoncer un contrat.
La particularité de ce contrat par rapport à d'autres contrats de droit privé, c'est que l'autoriste, c'est pas un pur prestataire de la maison d'édition. C'est un créateur, c'est le créateur d'un livre, d'une œuvre de l'esprit. Cette œuvre de l'esprit, elle est donc protégée par le code de la propriété intellectuelle et elle répond à une définition claire. Parmi les critères de définition, il y a le fait qu'il s'agit d'une production qui soit aboutie et originale. Et attention, seules les productions sont protégées, les idées, elles, ne le sont pas en soi. Il y a deux types de droits qui sont donc rattachés à une œuvre de l'esprit. D'abord, les droits moraux. C'est des droits qui protègent pour toujours et qu'on ne peut pas céder. Donc, qui, a priori, ne peuvent pas être l'objet d'un contrat éditorial. Ce sont les droits de divulgation. Seul l'auteur peut choisir de rendre son œuvre publique. De paternité. Le fait de mettre son nom sous une œuvre ou de rester anonyme et l'obligation de nommer l'auteur lorsqu'on évoque une œuvre. Le respect de l'intégrité de l'œuvre, le droit de retrait et le droit de repentir. L'auteur peut donc à tout moment modifier ou arrêter la diffusion, mais parfois contre l'indemnisation si des droits de diffusion ont été cédés à un éditeur par exemple.
Ce qui permet de faire la transition sur l'autre type de droit qu'on trouve dans le code de la propriété intellectuelle, qui sont les droits patrimoniaux. Donc ce sont les droits qui vont concerner l'exploitation de l'œuvre. Ça va dépendre des types d'œuvres de l'esprit. Nous, on va parler des livres. Donc pour les livres, ce sont principalement les droits de représentation, le fait de diffuser une œuvre à un public, et de reproduction, le fait de fixer l'œuvre sur un support pour qu'elle soit communiquée au dit public. Et ensuite, on va avoir les droits d'adaptation ou de traduction. Et ces droits, l'auteur ou l'autrice peut les céder, ils sont cessibles. Et c'est ce qui fait l'objet des contrats d'édition. Parmi ces droits qui sont cessibles, il y a la rémunération qui est définie contre cette cession, et c'est ce qu'on appelle les droits d'auteur, en fait, dans le contrat. Donc il s'agit d'une somme d'argent qui va être perçue par l'auteur ou l'autrice dans le cadre d'un contrat pour un livre ou une série de livres. Cette somme d'argent, elle est calculée le plus souvent sur un pourcentage du prix de vente hors taxe du livre. Aujourd'hui, c'est un point qui fait l'objet de revendications importantes de la part des autoristes pour obtenir une meilleure rémunération. On n'a pas vraiment de chiffres moyens parce que ça change beaucoup d'une maison d'édition à une autre, selon le domaine de publication, selon pas mal de spécificités. Mais en littérature, depuis quelques années, la tendance elle est autour de 8% d'un prix du livre. Et encore en littérature jeunesse, c'est encore plus bas. Donc ça veut dire que quand vous payez un livre 10 euros, il y a 80 centimes qui reviennent à son auteur ou son autrice.
Et le reste, il ne va pas dans la poche de l'éditeur. Hein. Il va servir à rémunérer les maquettistes, les illustrateuristes. Il va y avoir la part de la librairie, il va y avoir les diffusions, la distribution, le paiement de l'essence, du camion, du livreur. Tout ça, c'est le reste du prix du livre. Ces droits d'auteur, ils peuvent être payés ou plusieurs fois par an, après la vente des livres. Généralement, c'est en une fois vers la fin de l'année par l'éditeur, mais c'est quelque chose qui est aussi sujet de revendication, parce que c'est compliqué pour les auteurs d'être payés une fois par an, évidemment. Ils peuvent être payés également en avance de droit, avant même que le livre ne soit publié, voire avant même que le livre soit écrit pour certains. L'auteur recevra une somme qui correspond à un certain nombre de livres vendus. Certaines maisons font aussi varier les droits d'auteur en fonction du nombre de livres vendus, c'est-à-dire que par exemple l'auteur sera payé 8% et si plus de 1000 livres sont vendus ou si plus de 2000 livres sont vendus, il passera à 10-12%. Il existe aussi un autre système de rémunération qui va être celui du forfait. Dans ce cas-là, la maison d'édition va proposer à l'auteuriste une somme fixe au moment de la signature du contrat. Et cette somme fixe, soit elle vient en plus des droits d'auteur qui touchera à la vente des livres, soit elle se substitue à ces droits d'auteur. C'est souvent le cas pour les nouvelles qui vont être inscrites dans un recueil et dont du coup le partage des droits n'aurait pas trop de sens. Pour compléter cette question de la rémunération et même élaborer davantage dessus, sur la place aussi du contrat dans cette relation de l'auteur ou de l'autrice à la maison d'édition, on a été rencontrer Xavier Delo.
Xavier Delo est auteur, libraire et éditeur à Rennes. Il a monté les éditions Ad Astra et les éditions Argile. Il a aussi travaillé chez Critique, la librairie et maison d'édition qu'on a interviewé il y a quelques mois. Sous le nom de Thomas Géa, il a publié plusieurs romans, dont « Des sorciers et des hommes » et « Sous l'ombre des étoiles ». Bonjour Xavier, merci de répondre à nos questions.
Et bonjour à vous deux.
Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire quels sont les différents types de contrats que tu as pu expérimenter au cours de ta carrière, en fait, très diversifiée, autant en tant qu'auteur qu'en tant qu'éditeur ?
Il y en a eu plein. Il y en a eu plein, et puis en plus, c'est des contrats qui concernent parfois des supports différents aussi, hein, parce que bon, j'ai publié des nouvelles, j'ai publié des romans, des essais un petit peu, ça m'est arrivé. Et les contraintes ne sont jamais les mêmes, évidemment. Pour une nouvelle, en règle générale, ça se passe assez simplement. C'est des contrats qui sont des sommes forfaitaires, qui te laissent la liberté sur ton texte. Il n'y a pas de coercition, j'allais dire, entre l'éditeur et l'auteur, même si, effectivement, parfois pour certaines revues, j'ai eu des contrats qui faisaient plus de 20 pages pour une nouvelle. Et puis à l'éditeur auquel tu vendais père, mère, enfant, futur, tout jusqu'à la fin des temps, quoi, voilà, et la fin des galaxies. Bref, je ne citerai pas, par exemple, un éditeur qui s'appelait Eon. Alors là, je pense que c'est le contrat le plus bidon que j'ai jamais reçu. Là, c'est vrai que c'était du n'importe quoi. Un juriste mettait le nez dedans. Il n'y avait rien de valable. Hein, donc, bon. Mais ça ne prête à rien. Les nouvelles, souvent, ce n'est pas c'est, entre guillemets, c'est pas très important, même si pour ceux qui écrivent des nouvelles comme moi, c'est très important. Mais on va jamais trop avoir d'ennui avec, avec ces contrats-là. C'est plus difficile et plus délicat pour des romans, parce que pour les romans, on a un véritable enjeu commercial la plupart du temps pour les éditeurs. Et là, effectivement, ça complique un petit peu la question, et notamment celle du contrat. Et là, pour le coup, j'ai expérimenté pas mal de contrats très, très différents aussi. Des contrats hyper blindés, comme bien chez les humanoïdes associés ou Rajo, par exemple. Au contrat, parfois, qui te laisse la totale liberté, en fait, sur, sur ton texte. Par exemple, je prends l'exemple de Rivière Blanche. Rivière Blanche, tu peux récupérer ton roman quand tu veux, si un autre éditeur te propose de le reprendre, y compris en poche, par exemple. Donc, il n'y a pas du tout de mauvais rapports, j'allais dire, entre cet éditeur-là et les auteurs qui sont publiés. Voilà, donc c'est très, très facile de travailler avec un éditeur comme ça. Un éditeur comme Rajo, c'était plus formalisé parce que c'est un éditeur qui est sur la place, j'allais dire, et qui laisse peu d'espace, évidemment, à l'auteur dans son contrat. J'en ai fait un petit peu l'expérience. Faut l'accepter, bien sûr. Quand on accepte de signer, on signe, et puis on est responsable de cette signature. Bon, c'est sur l'après que ça peut être parfois difficile, parce qu'effectivement, Rajo, je sais que j'ai plus de contrat chez eux, je reçois toujours des relevés qui m'indiquent que je suis leur débiteur, parce que je ne sais pas pourquoi, ils ont des restes de stock ou je ne sais pas quoi, et puis du coup, je reçois toujours ces relevés tous les ans qui me disent que je suis débiteur. Alors je dis tout le temps, non, je suis désolé, je ne suis débiteur de rien du tout. C'est vous qui êtes mes débiteurs, puisque c'est vous qui m'avez commandé un livre. C'est juste une question linguistique, d'une certaine façon. C'est pas méchant de leur part, c'est juste que la façon dont la relation se fait entre l'éditeur et l'auteur, elle est parfois un peu vexante. Et c'est à 100%, vexante, c'est vexant pour l'auteur. Je ne vois pas d'exemple inverse, évidemment, parce que c'est comme si mon banquier m'écrivait, et lui, il a le droit de le faire. Si j'ai plus d'argent sur mon compte et que j'en dépense encore plus, qu'il me dit que je suis débiteur, il a raison de le dire. Mais mon éditeur n'est pas mon banquier. C'est quelqu'un avec qui je collabore et avec qui je travaille, et je n'ai pas envie de recevoir des relevés de banque de sa part. Voilà, donc c'est vrai que ça, c'est un type de contrat qui m'a fait hérisser quelques poils, on va dire, mais que je peux accepter aussi, puisque comme je disais, c'est aussi, quand on signe un contrat, c'est un rapport qu'on a avec un éditeur, on a accepté certaines choses, donc on l'accepte. Mais ça ne veut pas dire que dans un parcours d'auteur, on est censé accepter toujours le même type de contrat et toujours accepter ces contrats-là. Moi, je vais même plutôt vers maintenant des éditeurs qui me proposent des contrats beaucoup plus éthiques, comme par exemple Les Moutons Électriques me l'ont fait avec Sous l'ombre des étoiles en poche. C'était plutôt un très bon contrat, notamment sur les questions du numérique aussi. Donc moi, j'ai bien aimé leur contrat. Donc tous les contrats sont très, très différents les uns des autres. Avec Ad Astra, par exemple, moi, ça me dérangeait déjà un petit peu de devoir mal payer les auteurs. C'était déjà quelque chose que j'avais envie de faire, c'était d'augmenter les droits d'auteur, les pourcentages notamment. Et c'est ce que j'ai fait, parce que tous les contrats que je trouvais, les pourcentages étaient compris entre 6 et 8% à l'époque. Donc c'était pas terrible. Moi, je voulais une petite maison d'édition familiale. Je voulais que les auteurs se sentent bien chez moi et aient envie de rester aussi dans ma maison d'édition et de travailler avec moi et mon frère, puisque c'était une maison d'édition que j'ai portée avec mon frère. Et effectivement, la première chose que j'ai fait, c'est de monter les droits d'auteur à 11%. Voilà. Petite diffusion-distribution, certes, mais les auteurs avaient quand même un bon chèque aussi. Enfin, quand je leur donnais leurs droits, quoi, d'auteur. J'avais pas d'avaloir, mais au moins j'avais cet aspect-là qui était, à mon sens, essentiel. C'était de pouvoir proposer des pourcentages très supérieurs à la moyenne, puisque à l'époque, quand j'ai lancé ça, c'était vers 2009. Ce genre de pourcentage se pratiquait encore très très peu. Ça a un petit peu évolué, moi je trouve, de ce point de vue-là, notamment dans tout ce qui est publication de romans adultes.
Pour les éditions Argile, donc que tu as cofondé l'an dernier, est-ce que tu peux nous évoquer les spécificités des contrats qui relient les auteurs et l'éditeur ?
Oui, alors déjà, il y a une spécificité qui est vraiment, pour le coup, assez unique, je pense. C'est que nous avons travaillé avec un certain nombre d'auteurs de notre connaissance, etc., pour élaborer un contrat. Alors évidemment sur une base préexistante, hein, c'est un contrat du SNE, je pense, hein, quelque chose comme ça. On a de la SGDL plutôt, la Société des gens de lettres. On avait pris un contrat de base, voilà, et on s'est dit on le détruit complètement. On va pour le détruire justement le donner à ces auteurs-là qui vont pouvoir nous dire ce qu'ils aiment dans ces contrats, ce qu'ils veulent garder et ce qu'ils ne veulent pas garder. Et donc, effectivement, il y a eu un vrai brainstorm de la part de ces auteurs qui ont dit bah, « moi, ça, je voudrais conserver, et puis ça, moi, ça me semble totalement intolérable ». Enfin, il y a eu de grandes discussions là-dessus. Et puis, finalement, nous, comme on voulait vraiment un contrat qui soit plus éthique que ce qu'on voit peut-être, enfin, voilà, on ne veut pas révolutionner quoi que ce soit, mais faire quelque chose qui nous convienne pour Argile spécifiquement. Donc, on a gardé, évidemment, les choses les plus éthiques des contrats. Donc, on s'est dit qu'on allait faire un contrat qui soit le plus collaboratif possible en conservant les idées éventuelles de ces auteurs. Donc, très vite, on s'est rendu compte que, par exemple, sur le système d'Avaloir, beaucoup d'auteurs nous disaient que l'Avaloir, ce n'était pas quelque chose qui... Enfin, sur le montant, en tout cas, c'était pas quelque chose qui les intéressait tant que ça, finalement. Ce qui peut paraître étonnant parce que c'est de l'argent qui rentre. Hein. Mais il faut savoir aussi que le système d'Avaloir, et c'est bien pour ça que je parlais de Rajo tout à l'heure et que j'en suis débiteur, soi-disant, eh bien, ce système d'Avaloir, il fait que on vous donne une somme, 3000 euros par exemple, je ne sais pas, pour écrire le livre. Mais il faut savoir que vous n'allez pas toucher d'argent tant que ces 3000 euros ne sont pas remboursés par des ventes. Eh bien, parfois, effectivement, vous ne rembourserez, même souvent, vous ne rembourserez jamais cet avaloir parce que, eh bien, vous ne vendrez pas assez pour ça. Or, nous, chez Argile, on s'est dit, eh bien, qu'est-ce qui pourrait convenir, c'est de faire un système forfaitaire, un forfait, une prime à la signature, en fait, voilà, qui fait que nous, on donne une somme, mais c'est une somme qui est acquise par l'auteuriste. Et ce qui fait que lui, quand il va vendre son premier livre, quand il sera en librairie notamment, eh bien, il va toucher des droits d'auteur directement sur ce premier exemplaire vendu. Donc ça, c'est déjà une grande étape, j'allais dire, puisque il n'y a pas l'angoisse finalement derrière de ne pas vendre, puisque il aura forcément des droits à toucher sur ce qu'il va malgré tout vendre, qu'il vende beaucoup, qu'il vende peu finalement, il touchera quelque chose. Et c'est cet acte-là qui compte aussi beaucoup, je pense aussi pour les auteurs, c'est de rendre un peu plus positif ce circuit-là, à mon sens, quoi. Et donc, il y a eu plein d'autres choses. Hein. Le pourcentage, bon, évidemment, on s'est aligné sur ce que je faisais notamment chez Adastra avec des contrats à 11-12%. Les clauses, ça c'est quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que l'auteur peut cocher dans le contrat ce qu'il veut céder comme droit et ne veut pas céder. C'est-à-dire que s'il n'a pas envie de céder, je ne sais pas, les droits cinéma, les droits poche, etc., il est totalement libre de nous dire, en cochant cette case, non, je ne veux pas que vous occupiez de ces droits secondaires. Voilà. Donc finalement, on se concentre sur quoi ? On se concentre simplement sur les droits de publication du livre qu'on va publier. Et bien, quelque part, évidemment, ça nous force aussi, nous, en tant qu'éditeurs, à mettre le paquet sur la promotion de l'ouvrage, mais aussi l'accompagnement de l'auteur, parce qu'on va avoir une relation qui est beaucoup plus saine avec lui, grâce à ça, à mon sens. Et effectivement, je trouve ce qui se passe en ce moment chez Argile avec ces autoristes-là, c'est qu'on a d'excellents rapports, qu'on travaille ensemble, main dans la main, que s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on peut tout de suite s'en occuper. Et effectivement, je trouve que les choses avancent bien de ce côté-là, justement parce qu'à la base, on a un contrat qui est sain et qui donc améliore de facto la relation entre l'auteur et l'éditeur. Et c'est, à mon sens, ce qui pose problème le plus dans le circuit du livre, c'est ce rapport entre l'éditeur et l'auteur. Il y a un vrai rapport de coercition qui n'est jamais, et pour le coup, jamais à l'avantage de l'auteur. Alors, on ne va pas dire que là, ce sera à l'avantage de l'auteur, mais c'est au moins, au minimum, un rapport égalitaire. Et évidemment, je trouve ça plus plaisant, y compris en tant qu'éditeur, de pouvoir avoir de bons rapports, des rapports d'égalité avec la personne dont on a aimé le manuscrit et qu'on veut défendre en librairie.
Eh ben, merci beaucoup Xavier pour avoir répondu à nos questions.
Merci à vous deux, merci à la Framonde.
Merci à Xavier d'avoir accepté de partager avec nous cette expérience sur les contrats d'auteurs et d'autrices. On s'est pas mal retrouvés là dans les choix d'argile au niveau, au moins du point de vue éthique, si ce n'est strictement juridique.
Oui, c'est ça. Bon, on n'a forcément pas tout à fait la même forme administrative en tête et pas les mêmes enjeux, mais on se rejoint au moins d'un point de vue éthique. Ce qui est intéressant, je trouve que justement, c'est qu'on part des mêmes valeurs, la valeur de coopération, une relation équilibrée avec les auteurs ou autrices, une juste rémunération, mais on n'a pas fait les mêmes choix qu'eux. Déjà parce qu'on souhaite éditer des essais, des textes qui auraient leur place parmi les ouvrages scientifiques, et ça implique d'autres fonctionnements que celui d'une maison d'édition comme celle d'EGA. On a moins d'exemplaires vendus, y a un impératif de libre accès à la recherche qui implique d'utiliser des licences libres, on va un peu développer ça. Pour les droits d'auteur, et pour le dire très rapidement, nous on est parti sur un montant de 10% de droits d'auteur et 15% dans le cas des travaux collectifs. C'est plus que la moyenne, c'est moins que ce que propose Argile. Mais par contre, pour nous, c'est un pari. Par exemple, les éditions du commun, elles ont appliqué ces tarifs seulement au bout de quelques années d'existence et de montée en puissance économique. Chez Argile, ils ont déjà un réseau bien établi alors qu'ils viennent juste de se lancer et leur maison d'édition, elle est déjà forte économiquement. Donc ça permet ça d'assurer une telle rémunération et nous, on prend un peu plus de risques en se disant qu'on partira directement sur ce chiffre en termes de droits d'auteur.
Surtout qu'on se base sur un milieu qui est différent que celui d'Argile ou même des éditions du commun. On est à mi-chemin entre un milieu, on va dire, grand public amateur d'essai et aussi un milieu de recherche. Il faut savoir que dans le milieu de la recherche, les conditions de rémunération et des contrats d'édition sont extrêmement différents de ce qu'on trouve dans l'édition traditionnelle. Déjà, ça va être différent selon le support produit. Entre un article scientifique, une contribution à un ouvrage collectif ou un livre, ça va différer de tout au tout. Il peut y avoir, il y a aussi plein de types de maisons d'édition scientifiques différentes qui vont faire de l'édition donc à compte d'éditeur ou à compte d'auteur, qui parfois bâclent le travail éditorial énormément. Il y a des gros problèmes dans l'édition scientifique avec ça. Il y a des maisons d'édition qui sont françaises, qui relèvent donc du droit français et du code de la propriété intellectuelle. Mais beaucoup d'éditeurs scientifiques sont en fait basés à l'étranger, donc n'appliquent pas la même juridiction. Certaines de ces maisons, il faut penser que ce sont des monstres économiques en fait, qui occupent une grosse partie du marché et qui sont bien plus importantes qu'un groupe comme Hachette. Hein, pour vous donner un ordre d'idée de poids économique et de prestige, que ces maisons d'édition peuvent imposer dans le milieu éditorial scientifique et qui du coup fait qu'ils peuvent facilement conditionner les pratiques éditoriales dans le milieu de la recherche scientifique. Donc je ne vais pas lister en détail la totalité des différences parce que franchement il faudrait un épisode entier. Mais parmi les choses qui nous intéressent, qui diffèrent le plus, c'est que la rémunération des chercheurs et des chercheuses, elle est loin d'être systématique. En fait, elle est extrêmement minoritaire. La plupart du temps, on va justifier ça parce que ce sont des gens qui sont en poste dans des universités ou des instituts. Et donc, ils sont déjà rémunérés pour faire leurs recherches. Donc, on ne va pas leur payer leur publication en plus. C'est en tout cas la justification qui est donnée. Parfois, on va même demander aux auteurs et aux autrices ou aux laboratoires auxquels ils sont affiliés, de payer pour être publiés. Il y a souvent des cessions de droits exigées par les éditeurs qui sont abusives pour la recherche, notamment des exclusivités de publication avec un éditeur. Par exemple, un truc qui se faisait beaucoup, il y a encore une dizaine d'années, c'est que quand un chercheur allait publier quelque chose, notamment un article dans une grande revue, il cédait tous ses droits de reproduction donc de l'article en question, mais également de son matériel de recherche qu'il avait produit. Mais ça veut dire des statistiques, des trucs en laboratoire, des données qui sont faites avec de l'argent public et qui sont produites et qui sont perdues pour les autres, puisque après il faut pouvoir payer la revue pour pouvoir y avoir accès. Quand la revue, après, il faut voir que depuis quelques temps, il y a une vraie prise de conscience sur ces problématiques du milieu éditorial scientifique. Et il y a une pratique qui se met en place, éthiquement plus acceptable, notamment du côté des institutions, essentiellement en France, mais également en Europe, pour le domaine qui nous concerne. Hein,
Du coup, on l'a déjà dit, on s'est construit plutôt différemment de ces pratiques éditoriales-là. Déjà parce que au niveau de la rémunération, donc on traite vraiment les chercheurs comme des auteurs, qui sont rémunérés donc en droit d'auteur. Mais aussi au niveau de l'exclusivité, on va dire, du texte, on a finalement choisi de s'inscrire dans une logique de libre circulation de la recherche, donc une logique de science ouverte. On a pris pour exemple les contrats, là aussi, des éditions du commun, qui eux-mêmes sont dérivés des contrats de la société Framabooks, une maison d'édition qui est rattachée au groupe Framasoft, qui produit plusieurs logiciels open source. Des contrats donc qui ont été conçus au départ par Benjamin Jean, un juriste qui est spécialiste des modèles ouverts. L'idée derrière ces contrats, c'est qu'ils ne peuvent s'appliquer qu'à une œuvre ayant été placée sous licence Creative Commons préalablement. Ça, c'est quelque chose que l'auteur doit faire. La maison d'édition ne peut pas placer une œuvre sous licence. Creative Commons, c'est un modèle de licence libre qui permet un certain degré de réutilisation du texte en fonction de la façon dont la licence est construite. C'est un genre de licence à option. Par exemple, dans notre cas, on demande aux auteurs de placer leurs œuvres sous licence CC by NCSA. Donc CC, c'est pour Creative Commons. By, c'est sur le fait qu'il faut toujours donner le nom de l'auteur lorsqu'on utilise l'œuvre ou qu'on la cite. NC, c'est pour non commercial, ça veut dire que l'œuvre ne peut pas être réutilisée de façon commerciale ou d'une façon qui permettrait de toucher de l'argent. Et SA, c'est pour share alike, donc ça veut dire que l'œuvre doit systématiquement être repartagée sous la licence CC by NCSA, ou au moins en Creative Commons. Mais dans ses limites, le texte, il est librement diffusable. Ça veut dire que n'importe qui pourrait prendre un de nos livres, le photocopier et diffuser des copies gratuitement dans la rue, c'est légal.
Et du coup, comment nous on fait pour le commercialiser si le texte est mis en Creative Commons et donc en usage non commercial ? On a du coup recours à un type de contrat qui n'est pas en fait un contrat de cession de droit, parce que depuis le début, on vous parle des contrats de cession de droit, parce que c'est ce qui est la norme vraiment dans le milieu éditorial. Nous sommes sur un contrat de dérogation de licence qui nous autorise à commercialiser le texte sous une forme qui est clairement définie par ce contrat dérogatoire en échange du versement des droits d'auteur. Et là, en l'occurrence, ça va sur le papier et le numérique.
C'est ça, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de clauses stipulant par exemple notre place dans la négociation des contrats poche, des adaptations ou encore des traductions. Parce que par définition, on n'est pas responsable de ça. Si quelqu'un veut faire une version filmique d'un de nos essais, il peut le faire sans contrainte tant qu'il le diffuse gratuitement en licence Creative Commons et doit réaliser un contrat avec l'auteur s'il veut commercialiser son documentaire.
Nous, de notre côté, d'ailleurs, pour aller vraiment dans le sens du Creative Commons, on souhaite laisser les textes de nos auteurs en libre accès sous une forme qui serait basique, gratuitement sur notre site web. Donc ce sera sûrement pas la version EPUB, donc les versions retravaillées, ça on y réfléchit pour le moment. Et l'idée, c'est que ceux qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas acheter l'ouvrage en papier ou en EPUB pourront quand même avoir accès au contenu du livre. Non seulement ça correspond donc à nos valeurs hein, personnelles, que ce soit Corentin ou à moi, mais c'est aussi au cœur de ce que les institutions de recherche souhaitent favoriser aujourd'hui, notamment avec le dépôt de la recherche en ligne sur des archives ouvertes. Et ça nous permet de ne pas nous mettre en porte-à-faux vis-à-vis de ces partenaires institutionnels. Après, il n'y a pas qu'une question de principe là-dedans, hein. C'est aussi qu'on est sincèrement persuadé que les textes qui bénéficient d'une plus grande visibilité, comme là en le mettant en libre accès sur le net, va avoir du coup une plus grande communication et que les ventes vont s'en ressortir. Il n'y a pas eu d'études strictes sur ce sujet-là. Par contre, on a quelques témoignages hein, d'éditeurs qui ont pu pratiquer ça. Il y a l'exemple des éditions de l'Éclat.
C'est ça, c'est Michel Valenzi des éditions de l'Éclat. Eux, ils font ça depuis 20 ans et qui m'avait dit que tous les ouvrages qui étaient en libre accès en ligne n'étaient pas parmi leurs meilleures ventes, mais toutes leurs meilleures ventes avaient une version en libre accès en ligne. Et par contre, il y a un point qui semble important à soulever, c'est que ce type de contrat, c'est bien plus facile de le faire signer à des chercheurs qui sont souvent sensibilisés aux questions de libre circulation des savoirs et qui, pour la plupart, ne dépendent pas financièrement de leurs droits d'auteur. On l'a dit, souvent, ils sont rémunérés ou en poste, même si ce n'est pas le cas pour tous. Faire signer des contrats comme ça à des écrivains de fiction qui cherchent à vivre de leur plume et qui sont déjà en lutte actuellement pour faire reconnaître leurs droits, ne serait-ce que la valeur de leur profession, c'est plus compliqué. C'est certain qu'on n'aura pas tout à fait la même approche si on publiait de la fiction et on prendrait en compte les revendications actuelles des auteurs.
C'est ça, ça ne veut pas dire que la fiction est pour autant incompatible avec ce type de licence. En France, il y a l'exemple, et ce n'est pas le seul, hein, mais c'est un qu'on connaît bien, c'est les Ateliers de l'Antémonde, qui est une maison d'édition qui a notamment publié Bâtir aussi, un recueil de nouvelles, dont le texte est complètement en Creative Commons. Et là, eux, en plus, c'est carrément l'EPUB hein, qui mettent en libre accès sur leur site web. Et pour donner un exemple concret de ce que ça a permis, c'est que le Creative Commons a facilité l'adaptation de ce recueil de nouvelles sous une forme radiophonique par des gens qui n'étaient pas du tout issus des ateliers de l'Antémonde. Et donc là, ce n'est pas l'objet de ce podcast, donc on ne va pas pouvoir développer plus, mais ce sont des questions qui nous passionnent beaucoup avec Corentin et avec pas mal d'éditeurs, en fait, hein, et d'auteurs et d'autrices, hein, parce que c'est un sujet de conversation qu'on peut se retrouver régulièrement à avoir.
Et d'ailleurs, à ce sujet, comme on n'est pas les seuls à se poser des questions, vous pouvez avoir plus d'informations en allant voir le spectacle d'Antoine Defourte sur YouTube, qui s'appelle Un faible degré d'originalité, qui revient sur l'histoire de la propriété intellectuelle et comment ça s'applique aujourd'hui, qui est vraiment passionnant et très drôle. Et également l'épisode des mécaniques du livre consacré au contrat d'auteur, que je vous conseille, qui est dans la saison 1, qui revient plus longuement sur ces sujets-là.
Et nous, de notre côté, on va arriver à la fin de cet épisode. L'été arrive, donc on vous a préparé des épisodes hors série pour vous accompagner pendant les vacances, donc sous forme d'interviews de maisons d'édition en toute neuve ou en lancement. Et nous, on se retrouvera pour un épisode fin août, il me semble.
C'est ça.
Voilà, un épisode fin août. D'ici là, lisez bien, bonnes vacances et on vous retrouve d'ici quelques semaines maintenant.
À très bientôt.
À bientôt.